Ce soir, nous poursuivons et nous terminons un bloc de textes qu'on avait commencé à analyser. Donc, nous étudions ce soir le 10e commandement et nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 20, et c'est le verset 17. Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » L'instruction est très très claire et ça nous amène donc à étudier ce soir donc les 10e commandement et nous allons donc terminer ce bloc d'études là. Rappelez-vous, en débutant l'étude des 10 commandements, nous avions dit que les 10 commandements se résumait dans cette parole du Seigneur que nous connaissons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. On l'avait déjà lu, le verset 36. On va lire à partir du verset 36, Matthieu 22. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» C'est une question qu'un docteur de la loi lui posait. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, indissociable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ça résume cela. Donc, ça résume effectivement tous les 10 commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, ça résume tout cela. Et nous allons d'ailleurs le voir que le premier commandement qui nous disait que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face est tourné vers Dieu lui-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, ça veut dire que Dieu doit être l'objet de toute notre attention, de tout notre amour, de toutes nos préoccupations, qu'à aucun moment dans notre vie, une personne quelconque ou quoi que ce soit ne vienne prendre la place qui revient à Dieu. Que rien, que nous aimions, que nous chouchoutions, etc., que rien ne vienne en concurrence avec lui, nous l'avions dit quand nous avons étudié le premier commandement. Mais on s'aperçoit que le dernier commandement, tout en étant tourné, tout en faisant partie des derniers commandements qui parlaient du prochain, on s'aperçoit que le dernier commandement nous ramène malgré tout vers Dieu. Je vais lire un texte dans 1 Timothée, le chapitre 6. Le verset 6 qui nous dit ceci, « C'est en effet une grande source de gain, vous allez comprendre pourquoi je l'amène, donc c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Je vais parler du contentement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce verset ici de Timothée nous parle de l'importance du contentement, de ce savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Quand on n'est pas content de ce que Dieu nous donne, quand on n'est pas content, quand on n'est pas heureux avec ce que Dieu met dans nos vies, ben, on ne peut pas appeler autrement que de l'ingratitude envers Dieu. C'est vraiment de l'ingratitude envers Dieu et ça conduit forcément à la convoitise. C'est pas assez. Moi, tu ne m'as pas béni comme tu as béni quelqu'un d'autre. C'est pas assez et ça va conduire à la convoitise dont parle le commandement que nous avons à l'étude ce soir. Donc, pour éviter qu'on en arrive à des situations comme ça, il faut donc être reconnaissant envers Dieu. C'est pour ça que je dis, même le dernier commandement nous ramène encore à Dieu. Il faut être reconnaissant envers Dieu, envers les bénédictions qu'il nous accorde. Lui, il sait ce qu'il nous donne, il sait pourquoi il nous les donne, pourquoi il ne nous donne pas comme tel, il le sait. Et c'est lui qui a le plan. Il sait par exemple que s'il te donnait plus que ça, peut-être que tu vas te détourner de lui. Il connaît toute chose. Donc nous devons être reconnaissants, Seigneur. C'est ça que tu as prévu pour moi, mais merci. Je peux te demander plus, certainement, mais c'est selon ta volonté. Si tu veux m'accorder, tu vas m'accorder. Mais si c'est ça que tu dis, mais tu me diras, comme tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Donc c'est ce que je veux pour toi en ce moment. Donc la convoitise va souvent nous atteindre parce que nous n'avons pas cette confiance totale en Dieu qu'il est capable de pourvoir à nos besoins. Je l'ai déjà dit ici, Dieu veut pourvoir à nos besoins, mais il ne va pas pourvoir à tous nos désirs. Parfois, ça peut être des caprices. C'est un père pareil. Un père qui aime son enfant ne va pas toujours lui donner tout ce que l'enfant veut avoir.
C'est la même chose avec Dieu. Ayons confiance que ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il juge qui est bon pour nous en ce moment précis. Gloire à Dieu. Avant ça, ce n'était pas bon qu'il nous le donne. Après ça, c'est trop tard. Mais il le fait chaque chose en son temps et il le fait bien. Souvent, la convoitise va naître parce que nous n'avons pas cette confiance en Dieu. Et ça va arriver que, évidemment, nous n'acceptons pas que cette parole que je viens de dire, que sa grâce nous suffit, comme il a dit à Paul. Paul voulait qu'il les libère de cette écharde qu'il avait. Paul voulait tellement, il voulait tellement. Mais Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et donc, la convoitise va nous atteindre enfin lorsque nous avons peur de manquer. Oh là là, que ça nous poursuit. Là, c'est l'ennemi qui nous met ça en tête. Nous allons manquer. Nous allons manquer, nous allons manquer. Alors, il faut multiplier, il faut travailler à 36 endroits, il faut... Nous allons manquer. Et il y a des gens qui, par peur de manquer, veulent travailler jusqu'à la dernière minute, au dernier souffle. Mais à quel moment vous allez profiter de votre retraite? Alléluia! La convoitise peut nous amener à cause de la peur de manquer. Et la peur de manquer, c'est une preuve encore du manque de confiance en Dieu. Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu, le chapitre 15, verset 19, que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ça part du cœur de l'homme. Voilà pourquoi il faut veiller sur notre cœur, plus que toute autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que je dois entretenir ces choses? Ça peut me conduire loin du Seigneur. Je dois veiller sur mon cœur, qu'il n'entre pas n'importe quoi qui risque de me nuire et qui risque de m'éloigner des voies que le Seigneur veut que je suive. Sinon, si on ne fait pas attention à notre cœur, à ce qui se passe dans notre cœur, les mauvaises pensées vont s'y développer à un moment donné, inévitablement. Et ces mauvaises pensées peuvent mener à des actes répréhensibles. Vous savez, les gens qui ont volé ne se sont pas levés tout de suite, ils disent « je vais voler ». Ça commence par des pensées que tu entretiens. Et si je faisais ceci? Et tu entretiens ça, et puis ça va te pousser à faire un pas. Et puis tu te dis, dans le fond, il n'y a personne qui me voit, et tu passes à l'acte. Le meurtre, c'est la même chose. On ne se lève pas en disant, je vais tuer quelqu'un. Tu as commencé à préméditer ces choses, tu as gardé ça dans ton cœur, tu as entretenu ça. Le mensonge, c'est pareil, etc., etc. Voilà pourquoi donc aussi ce commandement, le 10e commandement, condamne tout désir coupable et malsain. Tu ne convoiteras pas, c'est un désir coupable et malsain qui va séduire le cœur de l'homme, même si cela n'aboutit pas toujours aux actes. Même si cela, déjà de penser à certaines choses, tu es en train de pécher, tu es en train de t'éloigner, tu es en train de commettre un mal. On va essayer de prendre quelques définitions ici, pour savoir la convoitise c'est quoi. Alors, la convoitise c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Ça te pousse, il faut que j'aie la chose, c'est extrême, je ne peux pas résister, j'y vais, et sans scrupule, peu importe par quelle voie je vais la voir, peu importe, etc. Mais une autre définition, c'est que c'est aussi un désir injuste, qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, de prendre pour nous ce qui appartient à autrui. Et quand nous lisons les textes, nous voyons, on parle des choses qui appartiennent à autrui. La femme du prochain, la maison du prochain, les serviteurs, la servante du prochain, son bœuf, etc. Tout ce qui ne nous appartient pas, c'est un désir injuste de prendre pour nous ce qui appartient à autrui. Et qui va donc, en le prenant, entraîner automatiquement un dommage dans le camp de l'autre, une perte dans le camp de l'autre, de notre prochain. Or, si nous l'aimons, nous ne pouvons pas vouloir qu'il connaisse des pertes à cause de nous. Si nous l'aimons, nous ne voulons pas qu'il puisse connaître donc des dommages à cause de notre convoitise qui lui arrache ce à quoi il a droit. La convoitise, frères et sœurs, c'est aussi le fait d'envier ce qui est détenu par quelqu'un d'autre. Cela arrive évidemment parce que nous avons tendance à croire que, c'est une expression que j'ai entendue ici, dans la cour du voisin, le jardin est toujours vert. Tu as envie ce qui est détenu par l'autre. Tu es sûr que quand tu regardes chez l'autre, le jardin est toujours vert. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie. Il a une belle maison, il a des... Tu as envie ces choses, tu dis, ah, j'aimerais bien être là. Mais tu ne sais pas ce que cette personne endure, quel problème il vit avec ce qu'il a et que toi, tu es en train d'envier. Si tu le savais, peut-être que tu ne l'envierais même pas. Même pas. La question, évidemment, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que
Est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des désirs? C'est comme si on empêchait d'avoir des désirs. Non, pas du tout. Pas du tout. On doit avoir des désirs. C'est notre droit le plus strict, mais ce qui doit être évité, évidemment, c'est des désirs malsains. Des désirs qui vont nuire à l'autre. Des désirs qui sont mal orientés. Ils sont mal orientés parce que tu as tenté de désirer la chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Désire, demande à Dieu qu'il te donne quelque chose qui te convient et qui est à toi, mais pas orienter ça en disant « je désire ce qui appartient à quelqu'un d'autre ». C'est des désirs mal orientés, ils sont malsains, parce qu'ils vont toujours nous conduire à nous comparer à quelqu'un d'autre, nous comparer à notre prochain. C'est la pire des choses. Quand tu commences à te comparer, tu deviens malheureux ou tu deviens orgueilleux, ça dépend. Tu te compares, tu dis « waouh, lui il est bas, moi je suis haut ». Ça va te créer l'orgueil en toi. L'autre côté, si tu dis, il est là, moi je suis là, tu dis, mais pourquoi pas moi que je sais. Ça va te rendre malheureux et cela peut générer à terme la jalousie. Et la jalousie, c'est la pire des choses que nous puissions vivre comme enfants de Dieu. Donc, on dit que ce commandement ne condamne pas du tout le fait de désirer quelque chose. C'est notre droit de désirer quelque chose, c'est légitime et la Bible nous y encourage. En tout cas, la Bible ne le condamne pas du tout parce qu'il y a des bons désirs que nous pouvons avoir, il y a des bons désirs auxquels nous pouvons légalement donc prendre part. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a des choses que ton cœur peut désirer que Dieu va te donner lorsque tu fais de l'Éternel ses délices. Voilà pourquoi aussi dans 1 Timothée 3, le verset 1, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Ce n'est pas pour avoir le titre, c'est pour servir. Dieu voit le cœur de serviteur, il dit, tu aspires à cette charge, donc c'est une œuvre excellente. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il nous recommande et nous encourage même à désirer. Désirer comme des enfants, comme des petits-enfants, comme des enfants nouveau-nés. Désirer le lait spirituel de la parole, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Nous avons le droit de désirer, mais il faut désirer des bonnes choses, des choses qui nous amènent à rester dans les voies que le Seigneur veut, nous puissions donc marcher. Par conséquent, ce que la Bible condamne, ce que la parole de Dieu condamne, ce sont des désirs qui vont nuire aux autres, pas seulement aux autres, même à notre relation avec Dieu. Même à notre relation avec Dieu. Et la Bible nous donne quelques exemples. Je vais en prendre quatre exemples dans la Bible des mauvais désirs qui sont donc considérés comme de la convoitise, qui sont qualifiés de convoitise. D'abord, nous avons les cas les plus anciens, c'est le cas de Lucifer. Lucifer lui-même, que la Bible appelle l'astre brillant. Et nous allons lire deux textes qui nous en parlent. Dans Ésaïe d'abord, Ésaïe chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 12, on pourrait aller jusqu'à 17, mais je vais m'arrêter à 14. Il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » C'était le titre qui était donné donc à Lucifer, « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Quelle prétention! Voici ce que pensait Lucifer. Je vais lire un autre texte et puis on va. C'est de l'autre, c'est dans le livre d'Apocalypse. On va lire le verset 9 qui dit: Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges, le tiers des anges qu'il a séduits, furent précipités avec lui. Voici ce que nous dit la parole, qui est la conséquence de cette convoitise, du fait qu'il a voulu s'élever. « Je m'élèverai, dit-il, au verset 14, je serai semblable au Très-Haut. » C'est de la prétention, rien d'autre de la part. Pourtant, vous connaissez l'histoire, c'est que Lucifer était bien dans son rôle. Hein, il était bien, c'était l'ange le plus élevé parmi les anges du ciel. Il avait un rôle, une position de leader responsable de la louange et de l'adoration. C'est lui qui conduisait les myriades des créatures célestes qui offraient à Dieu des sacrifices, etc. Il était en très bonne position.
en très très bonne position. Mais il a voulu se comparer à Dieu, la comparaison. Il a voulu se comparer à Dieu. Il a dit, mais pourquoi on doit toujours offrir la louange d'adoration à Dieu, pourquoi pas à moi? Je peux convaincre mes anges pour qu'ils puissent aussi m'adorer. Je m'élèverai pour que des gens aussi m'adorent. Ces gens m'adorent aussi, ces anges. Et donc, il voulait aussi recevoir aussi l'adoration de ces créatures divines. Et la conséquence est claire. Cette convoitise qu'il a habitée, son orgueil, etc., l'ont précipité, on vient de lire ça dans le livre d'Apocalypse, l'ont précipité hors des cieux, sur la terre, amenant avec lui, évidemment, le tiers des anges, des multitudes donc, d'anges qui ont été précipités. Premier cas, et les conséquences de la convoitise, nous le voyons pour ce qui est de Lucifer ici. Mais si nous venons sur terre avec nos premiers parents, le cas de nos premiers parents, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Nous lisons dans Genèse, au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er, je vais aller jusqu'à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Se met le doute dans le cœur de la femme. Il dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant donc le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon, commença à convoiter le fruit de cet arbre. Pourtant, il le voyait bien avant, avant que le serpent ne vienne la tenter. Il vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est le fait d'écouter la voix du serpent, la voix du diable, la voix de l'ennemi, qui lui a menti, rien d'autre que mentir. D'abord, commencez par semer les doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, effectivement, Ève savait ce que Dieu avait dit et il l'a répété. Mais il dit, mais vous savez quoi? Il a dit ça pour que vous ne puissiez pas être comme lui, connaître le bien du mal, que vous ne puissiez pas être comme lui, connaître donc le bien et le mal. Donc, Ève oublie toutes les restrictions qui ont été fixées par Dieu et qu'elle a pensé, effectivement. Elle a cru à ce que le menteur, le diable lui a dit, il pensait effectivement qu'en mangeant du fruit défendu, ils peuvent être comme Dieu. Ils peuvent être comme Dieu. Elle y a pensé réellement pour pouvoir se le permettre. Alors voyez-vous, c'est le même pattern, j'allais dire. Lui, il sait ce qu'il a tenté de faire là-haut. Il a essayé d'obtenir la gloire, qu'il prenne la place. Je montrerai jusqu'à la place de Dieu, je serai égal à Dieu. Il a voulu le faire, vu que ça n'a pas marché. Il veut mettre l'être humain dans le même piège, le même pattern. Donc, il dit, vous serez comme Dieu. Ça veut dire qu'elle a cru le serpent. Elle a cru que le serpent avait raison. Elle a cru que c'est Dieu qui lui a menti. En leur disant que, si je leur dis ça, ils vont avoir peur. Vous mourrez, elle va avoir peur. Mais non, Dieu ne ment pas. Dieu a dit la vérité, et ce qu'il a dit est réellement arrivé. Mais la femme a préféré écouter la voix de l'ennemi. Alors, ce que l'ennemi, le diable, veut, c'est toujours, même en nous offrant des choses qui nous attirent, mais c'est pour nous éloigner de Dieu, c'est pour nous détourner toujours du chemin que Dieu a tracé pour nous. Et il va se servir beaucoup de l'arme, de la convoitise. La convoitise pour arriver à ce fait. On aime tellement voir. Elle a vu le fruit de l'arbre. Elle voyait ça depuis toujours, mais elle a commencé à voir que c'était bon. La convoitise des yeux, la convoitise de tout le reste, etc. Voici l'arme avec laquelle l'ennemi va donc détourner beaucoup de gens. Nous avons également dans la Bible l'histoire du roi David. Si nous lisons ensemble dans 2 Samuel, chapitre 11, c'est l'histoire donc de l'adultère de David avec Bathsheba. La Bible nous dit au verset 2, un soir, de Samuel 11, verset 2, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba,
fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Je ne vais pas tout lire, vous connaissez plus ou moins l'histoire. Le problème de David ici, c'est qu'il s'est trouvé dans une mauvaise position. Comme nous tous, nous pouvons un jour nous trouver dans une mauvaise position. On n'avait pas prévu d'aller sur la fenêtre, d'attendre, de voir que la femme... Mais c'est juste en passant qu'il l'a vu, mais il est resté fixé là-dessus. Convoitise des yeux et des choses, des pensées ont commencé à naître en lui. Il voit des yeux, il entretient ça dans son cœur, il développe des pensées, il pousse plus loin pour dire qu'il y a cette femme, qu'il la connaît, qu'on peut me l'amener, etc., etc. Et il est arrivé à ses fins. Et donc, il se trouve dans cette position et puis à se plaire à regarder une femme qui est en train de prendre son bain. Il a nourri donc des pensées d'adultère à partir de ce moment-là et il les concrétisa. Il les concrétisa. Il ne s'est pas arrêté en cours de route. Il est allé plus loin. Il a fait venir cette femme. Donc, puis, après avoir fait ce qu'il a fait avec la femme, elle est tombée enceinte. Il fallait trouver le moyen de cacher tout ça. Vous vous rappelez comment il a fait venir son mari. Il dit, mais écoute, je te permets d'aller chez toi, mais comme Dieu savait ce qu'il voulait faire, ben, le mari a dit, il a couché à la porte de la maison, il dit, ouais, il n'est pas allé chez lui, donc c'était impossible. Il fallait trouver un moyen de l'éliminer. C'est ça le problème. Voyez-vous jusqu'où peut aller le péché? Ça commence par la convoitise des yeux, ça descend dans le cœur, ça conduit à l'adultère, ça conduit au mensonge, etc. Et puis enfin, ça conduit jusqu'au meurtre. La convoitise n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ça part d'une idée, là, des yeux qui voient, une idée qu'on entretient dans son cœur, et puis ça travaille, ça va nous pousser à poser des actes répréhensibles, des actes qui sont mauvais. Le dernier cas, c'est le cas du roi Akab, que nous lisons dans la suite, dans 1 Roi, le chapitre 21. Je crois que j'en ai même parlé, nous avons lu ça en étudiant. La semaine où on a parlé du 9e commandement, nous parlions de faux témoignages. Et je sais que j'ai donné cet exemple de Cab avec Naboth au chapitre 21. C'est donc, voici ce qui arriva au verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël. C'est un bon paisible citoyen qui avait une vigne à Jisraël à côté du palais d'Akab. Son malheur, c'était peut-être ça. D'avoir ça à côté du palais d'Akab, à lui, il commençait à convoiter. Alors, Akab, le roi de Samarie, parla ainsi à Naboth, il dit, « Cède-moi ta vigne. » Le travail est déjà fait dans son cœur. Chaque matin, il se lève, il regarde, il dit, ouais, « J'aimerais bien avoir cette vigne, j'aimerais bien. » Ça ne t'appartient pas, mais tu veux, parce que tu es roi, tu crois que tu vas l'avoir, même si tu dois l'acheter de force. Il dit, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisraël. Il dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien, comme un petit enfant. Il commence par convoiter quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce que tu es roi que tu crois permis. Malheureusement, c'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Quelqu'un qui est en position d'autorité, il se croit permis. Ici, au moins, il n'a pas arraché, mais il dit, je veux l'avoir. Si tu veux que je te l'achète, je te l'achèterai. Sinon, je peux te donner une vigne meilleure. Mais celle-là, comme elle est à côté de moi, je tiens à l'avoir. L'autre dit, pour rien au monde, je te donnerai ça parce que c'est l'héritage de mes ancêtres. C'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te vendre l'héritage familial. J'y tiens beaucoup. Et l'homme est tombé en crise, comme je dis, comme un enfant. Il est allé, il commence à pleurer, il va se jeter au lit. Et la femme vient voir, elle dit, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas tout lire, vous connaissez. Il vint auprès de lui, il dit, pourquoi tu es triste? Un roi triste. Parce qu'il explique la chose, il dit, hein? Parce que juste Naboth t'a refusé, ça tu es triste. Attends, moi je vais t'arranger ça, je vais te montrer que je suis capable de t'arranger la chose. Ne pense pas que Naboth a le droit. Il y a des choses qui ont des valeurs, pas juste sentimentales, mais des valeurs profondes, etc. Ça a été passé peut-être de génération en génération. Il veut garder, il ne veut pas être le premier à briser cette chaîne par cupidité. Le roi pouvait lui donner une vigne meilleure, etc. Mais il dit non, ça a une valeur sentimentale. Notre famille est attachée à cette vigne. Donc Akab est en crise et sa femme intervient évidemment et elle monte un complot. Elle paye des gens, ce qu'on a dit la fois passée, elle va soudoyer les gens donc pour aller dire n'importe quoi, monter un complot contre Naboth et la suite, vous la connaissez, Naboth a été tué. Naboth a été tué. Encore une fois, ça part de la convoitise. La convoitise qui amène au mensonge. Il a menti à ses témoins. Allez, trouvez-moi des personnes qui vont aller raconter, fomenter une histoire contre Naboth, etc. Mensonge, faux témoignage et enfin meurtre. Les conséquences de la convoitise sont graves. Elles sont nombreuses et nous devons y faire vraiment attention. Quand nous lisons dans notre texte de Exode, chapitre 15, on va se demander, tu ne convoiteras point la maison, la femme, le serviteur, la servante, le bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous voyez bien que la liste n'est pas une liste exhaustive. Et d'ailleurs, si nous voulons comprendre pourquoi cela, c'est parce que ça parle de ce que les gens... C'était des peuples d'éleveurs, c'était des peuples qui vivaient des champs et de l'agriculture et de l'élevage, etc. C'est pour ça que la liste qui est donnée ici parle des choses qu'il y avait et qui correspondaient à la vie et aux traditions des gens de l'époque. Ce n'est pas une liste limitative ici, mais ça donne simplement des indications. Ce n'est pas juste la femme du prochain qu'il ne faut pas convoiter, ni sa servante, ni son serviteur, mais ça peut aussi être, tu peux convoiter les enfants du voisin. Les tiens n'étudient pas, les tiens sont des voyous, les tiens sont... Mais pourquoi moi j'ai tout fait pour que mes enfants... C'est la convoitise. Commence à regarder chez le voisin. Pourquoi les enfants de l'autre ont réussi? Ou tu n'as pas eu d'enfant, tu dis, mais pourquoi moi je n'ai pas eu d'enfant? Pourquoi il y a des beaux enfants? La convoitise, ça peut mener loin et c'est des choses qu'il faut vite arrêter. Ce n'est pas seulement les bœufs, comme on dit, l'âne, etc. Ça, c'était des choses qui correspondaient à la culture de l'époque, mais ça peut être une voiture. Tu peux convoiter la voiture de ton prochain, de ton voisin. Pourquoi lui roule dans des gros camions, pourquoi pas moi? Moi, j'ai une petite auto de rien du tout. Non, frère et soeur, c'est ce que Dieu t'a permis d'avoir et tu roules bien, contrairement à ce que les gens disaient. J'ai déjà parlé d'un PDG d'entreprise qui, c'est un homme qui était extrême, vraiment, et qui convoitait réellement. Donc, il avait beaucoup de possibilités. Je dirais même qu'il va au-delà parce que ça a dû le pousser à tricher ou à détourner de l'argent. C'est un monsieur qui aimait que les Mercedes. Pour lui, quand tu ne roules pas en Mercedes, il appelle, ce n'est pas une voiture, là, c'est une auto, je ne sais pas comment. C'est un moyen de déplacement, disait-il. Quand tu ne roules pas en Mercedes. Et lui, ce n'est pas juste une Mercedes. Il avait des Mercedes, la couleur, il portait la couleur de sa voiture. Donc, les vestons, tout matchait avec. Voici jusqu'où. Alors, si tu commences à envier une personne comme ça, tu vas voler. Un jour, tu vas voler, ou tu vas tuer quelqu'un pour pouvoir avoir aussi une Mercedes, donc tu n'en as pas les moyens. La convoitise, jusqu'où elle peut mener. Donc, ce n'est pas une liste limitative. Ce qui va déterminer les choses, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est la culture, c'est les traditions dans lesquelles nous vivons qui vont nous déterminer les choses sur lesquelles notre convoitise peut porter. Donc, c'est juste des indications. Maintenant, en terminant, donc... Nous vivons dans une société moderne qui est caractérisée justement par beaucoup de préoccupations d'élévation personnelle. Et même des enseignements, de plus en plus, même dans les églises, on donne des enseignements sur la promotion de la personne, l'élévation de la personne, le moi, etc., etc. Ta destinée, le succès, etc. Ce n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas mettre continuellement l'accent dessus. Mais c'est malheureusement la société moderne qui veut ça. Mais il ne faut pas amener des choses du monde dans l'Église. Ça ne manque, on ne manque pas d'enseignement à donner aux gens par rapport à leur foi, par rapport à leur sanctification, pour commencer à aller chercher des choses comme ça. Donc, c'est des préoccupations plutôt personnelles, d'élévation personnelle, des préoccupations de possession matérielle. La convoitise, évidemment, dans un tel milieu, va trouver un terrain propice à son développement. Si on pousse à ça beaucoup, on en parle tellement. Si tu n'as pas été à tel endroit, tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas encore pu te réaliser, etc., etc. Donc, la convoitise va te pousser à aller chercher des choses qu'en temps normal, tu n'as pas besoin d'avoir, mais tu veux le faire pour qu'on ne dise pas que toi, tu n'as pas été là-bas, tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu cela. La convoitise. À cause des préoccupations modernes, de la préoccupation de la société dans laquelle nous vivons. À tel point qu'une personne, un jour, s'est exprimée en ces termes avec des gens qui ne convoitent rien.
Donc, quand on regarde des gens qui ne convoitent rien, qui ne veulent pas s'élever, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas avoir des gens, il dit l'économie est fichue. Voyez-vous les préoccupations? Et vous comprenez pourquoi la publicité nous poursuit jour et nuit, même quand on ne veut pas avoir. On nous appelle au téléphone jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et ça pousse à la convoitise. On vous présente des offres alléchantes, même si vous n'aviez même pas envie d'avoir un objet ou quelque chose. Dites, mais c'est tentant, les conditions sont bonnes, je vais le prendre. Convoitise, convoitise, convoitise. Dit-il, cet homme dit, avec des gens qui ne convoitent rien, mais l'économie est fichue. Vous comprenez donc pourquoi la publicité nous envahit donc à l'extrême, parce qu'il faut que l'économie tourne. Il faut que l'économie tourne. Et malheureusement, comme enfant de Dieu, quand on se laisse aller à ces choses, quand on voit les autres posséder des biens et que nous, on ne peut pas s'offrir ces biens, il y a des mauvaises pensées qui peuvent naître dans notre cœur, commencer soit à se plaindre, soit à murmurer, soit à dire pourquoi moi, pourquoi pas, etc. Et des mauvaises pensées peuvent naître dans notre cœur qui vont nous amener loin, qui vont nous amener loin de ce que le Seigneur veut pour nous. Merci Seigneur de nous aider à rester donc dans tes voies. Ce que je veux dire en terminant, c'est que la convoitise, oui, elle affecte des individus à la base, mais ça peut toucher toute une famille, ça peut toucher tout un pays. Aujourd'hui, si vous regardez les guerres qu'il y a dans le monde, ce n'est pas les guerres parce qu'il y a eu agression ici et là, c'est des guerres liées à la convoitise. Les dirigeants savent que dans tel pays, il y a des richesses que nous n'avons pas. Nous voulons avoir une main mise dessus. C'est la convoitise. Ça part des individus, mais ça affecte des pays, des familles, etc. Et c'est des guerres, c'est des turbulences dans le monde entier. Donc, comme enfants de Dieu, ce que nous devons tirer pour éviter toutes sortes de conflits. S'il y a des conflits meurtriers à travers le monde, c'est vraiment à cause de la convoitise. Juste regardez l'actualité, vous allez vous en rendre compte. Alors, comme enfants de Dieu, évidemment, nous devons apprendre à mettre un frein. Si nous voulons mettre ce commandement en pratique, c'est savoir mettre un frein à nos désirs de possession. Pas mauvais de posséder, c'est pas mauvais d'aspirer à posséder quelque chose, mais il faut mettre un frein. C'est pas posséder pour posséder, posséder pour posséder. Ça peut nourrir des convoitises sans fin et ça peut nous détourner à la limite des voies de Dieu. Soumettons plutôt nos besoins au Seigneur. Si le Seigneur le permet, si le Seigneur le veut, il nous le donnera. Autrement, ben, puisque je regarde à l'autre, j'envie ce que l'autre a, etc., etc., je peux soit lui faire du mal, je peux même me faire du mal à moi-même, parce qu'il y a des gens qui s'engagent à prendre des dettes outre mesure, parce qu'ils veulent accomplir ça pour que, en se comparant aux autres, qu'on dise, ben, lui aussi est arrivé. Non, frères et sœurs, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous. Soumettons nos désirs, soumettons nos besoins, soumettons nos projets au Seigneur. Et donc, le dixième commandement vient conclure cette étude que nous faisons depuis quelques semaines. C'est une belle conclusion de ce livre, de ce recueil des 10 commandements qu'on appelle le Décalogue. Une belle conclusion dans la mesure où il nous ordonne de n'entretenir dans notre cœur aucune envie, aucune pensée contraire à la volonté de Dieu. On peut les résumer comme ça. Il ne faut pas entretenir des pensées contraires à la volonté de Dieu. Et Jacques, verset que je lis en terminant, Jacques chapitre 1, verset 15, qui nous dit ceci, « Quand la convoitise a conçu, quand elle a conçu dans notre cœur, elle enfante le péché. » Jacques 1, 15, « Quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Alors on est prévenu, nous devons faire attention. Ça peut partir juste des yeux, ça peut partir des pensées, ça peut partir de ce que nous entendons, mais il y a des choses que nous devons arrêter tout de suite dans notre cœur, que ça ne porte pas des fruits, que ça ne commence pas à avoir des racines, parce que ça peut nous amener loin. N'envions rien, ne cherchons pas à avoir des yeux sur ce qui ne nous appartient pas. Au contraire, aimons-nous les uns les autres et cherchons à protéger les intérêts de notre prochain dans tous les cas. Et que le Seigneur puisse donc être glorifié. Amen.